Bonjour, vous écoutez le podcast Perte de poids et sérénité, épisode 144, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « De la pensée à l'action ». Donc c'est effectivement un sujet que j'ai déjà traité, le passage à l'action. Je les ai notamment traités dans l'épisode numéro 33 et l'épisode 120. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en termes de changement d'habitude alimentaire et également par rapport au fait de diminuer le grignotage émotionnel, eh bien, si on ne passe pas à l'action, effectivement, il ne se passera absolument rien. Si on ne change pas ses habitudes, il ne se passera absolument rien. Et c'est vraiment la différence entre les personnes qui veulent faire quelque chose et les personnes qui font quelque chose. Hein. C'est vraiment le passage à l'action. Alors, il y a des règles à respecter par rapport à cela pour faciliter effectivement ce passage à l'action. Notamment, donc, la première étape, c'est effectivement de rêver grand. Donc, comme on dit en anglais, dream big. Et ça me fait penser à la vidéo sur YouTube que j'ai regardée de Tony Parker, donc le joueur de basket français qui effectivement a fait toute une grande partie de sa carrière aux Spurs. Et dans ce cadre-là, il a effectivement expliqué, donc il a été intronisé dans le Basketball Hall of Fame il y a quelques jours, je crois. Et donc il a fait un très beau discours que j'ai regardé sur YouTube, qui dure à peu près 10-15 minutes, où il explique qu'il faut rêver grand, et que lui, effectivement, quand il était en France, il regardait les compétitions de la NBA, et il avait envie d'en être, ça c'est évident, mais on lui disait qu'il était trop petit, trop mince, trop maigre, skinny, et on le voit effectivement quand il est intronisé dans le Basketball Hall of Fame, on le voit par rapport à ses coéquipiers, ou c'est, je sais pas si c'est ses coéquipiers des Spurs, ou moi je connais pas trop les baskets, les joueurs de basket, on voit qu'il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus mince que les autres. Moi, les joueurs de basket, j'en connais très très peu, donc c'est sur les doigts d'une main, je le connais vraiment très peu. Mais effectivement, Tony Parker, je le connais, parce que c'est le Français par excellence qui a réussi aux États-Unis au niveau de la NBA. Et donc, il disait qu'il faut vraiment rêver grand, et que si... Donc, il faut prendre le risque déjà de partager ses rêves avec notre entourage, nos amis, etc. Et que quand vous énoncez ces rêves, si les personnes ne rient pas, c'est que votre rêve n'est pas assez grand, en fait. Il faut que le rêve soit énorme pour après qu'il se réalise et surtout passer à l'action. Si nos ambitions ne sont pas assez importantes, ça va passer en fait dans le quotidien et il ne se passera rien. Donc il faut vraiment rêver grand, donc que ce soit par rapport au fait que vous souhaitiez retrouver votre poids de forme ou diminuer le grignotage émotionnel ou retrouver de nouvelles habitudes alimentaires. Il faut vraiment y aller, ça, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais quand il s'agit effectivement du passage à l'action, il est important de mettre des étapes concrètes et facilement atteignables par rapport à cela. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, voilà, dans 6 mois, je souhaite revenir à mon poids de forme. Donc ça, c'est « je rêve grand ». Parce que je sais que ça fait plusieurs années, peut-être que j'ai du mal à baisser mon poids, à arriver à changer mes habitudes, etc. Donc c'est un gros rêve, bien évidemment. Mais la mise en place doit s'accompagner d'étapes petites et surtout concrètes. C'est-à-dire qu'en fait, dans 6 mois, je retrouve mon poids de forme et de ce fait, je vais manger équilibré matin, midi et soir et arrêter toutes les sucreries et arrêter de boire de l'alcool et arrêter de manger des chips. Et du coup, effectivement, dans 6 mois, j'aurai atteint mon poids de forme. Sauf qu'on sait très bien qu'on est lundi et que le vendredi, on va voir les copains qui vont nous inviter à boire l'apéro parce que c'est l'anniversaire d'un tel ou d'une telle. Et on sait que le vœu pieux du lundi... il va partir dans les oubliettes le vendredi, bah, parce qu'on va avoir envie, d'une part, de socialiser hein, avec nos amis, ce qui est tout à fait normal. Deux, de ne pas changer nos habitudes en matière d'alcool. Donc, on va certainement pas arrêter complètement l'alcool. Et peut-être que ensuite, le samedi, on va avoir un gros coup de stress et puis on va prendre le paquet de chamallows et on va se manger le paquet de chamallows entier pour passer ce coup de stress là, parce que quelqu'un nous a énervé. Donc on voit bien que les promesses que l'on s'est faites avec les actions finalement que l'on veut mettre en place le lundi, où on a dit j'arrête de manger des sucreries, j'arrête de manger des chips et j'arrête de boire de l'alcool, et du coup dans 6 mois effectivement j'aurai retrouvé mon poids de forme. Effectivement, si on met tout cela en place sur les 6 mois, on sait que effectivement les 6 mois après on aura retrouvé notre poids de forme. Sauf que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'en fait le vendredi soir vous allez arriver avec peut-être la promesse que vous êtes faite de complètement arrêter l'alcool, et vous savez très bien que vous ne tiendrez pas, parce que passer de l'alcool que vous avez l'habitude de boire ou des friandises que vous avez l'habitude de manger à zéro, à rien d'un coup, c'est compliqué. Et puis vous n'allez pas avoir envie non plus de rester chez vous et de pas voir vos amis, votre famille, etc. Vous allez avoir envie de socialiser. Donc, une mise en action, je dirais, des promesses et puis de notre rêve, hein, de notre gros rêve, ça ne se fait pas comme ça, en fait. Ça se fait par petites étapes atteignables que l'on sait que l'on va pouvoir tenir. Par exemple, si l'on sait que le vendredi soir, quand on est invité à un anniversaire, on sait à peu près notre consommation, on sait qu'on boit à peu près, disons 2 apéritifs et après environ 2 verres de vin. On peut partir par rapport à cela, et on sait que quand on a un gros coup de stress, eh bien la plaquette de chocolat y passe, ou le paquet de Haribo y passe. Hein, on connaît hein, nos quantités, et on sait que quand on met le nez dedans, on a beaucoup de mal à s'arrêter. Et donc en fait, une action concrète par rapport à cela, c'est de dire ok, je sais qu'effectivement quand j'ai un gros coup de stress, j'ai envie de me venger sur le paquet de Haribo, hein, par exemple, mais contrairement à d'habitude, plutôt que de me descendre le paquet de Haribo, je ne vais manger que la moitié du paquet. Mais ça, à vie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je me promets à moi-même, donc le lundi, je ne sais pas combien, dorénavant, si j'ai un gros coup de stress, je ne terminerai pas le paquet, mais je ne mangerai que la moitié du paquet, et ça, ce sera pour toute ma vie. Et en fait, le cerveau, lui, va accepter cela. Donc, pour deux raisons. Déjà, parce que le cerveau va conserver ses petits bonbons Haribo. Donc, du coup, il ne va pas complètement freiner des cas de fer et trouver tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. Donc, ça, c'est super important. Et le deuxième intérêt dans cette stratégie, c'est que c'est pour toute la vie. Et franchement, pour toute la vie, ça fonctionne bien, parce que de ce fait, c'est une habitude que vous allez acquérir à long terme et qui va vous servir finalement à long terme pour toute votre vie. Et toute votre vie, sachant qu'on maintient finalement une partie de ce sur quoi on craque, hein, nos sucreries Haribo, de ce fait, le cerveau, il va dire ok, on fait comme ça, la prochaine fois que tu craques, tu manges non pas la totalité du paquet, mais uniquement la moitié. Et là, ça va être un gain. Parce qu'effectivement, on se dit, oh là, c'est quand même, je mange encore des sucreries, etc. Oui, mais en termes de quantité globale sur l'année, parce que c'est ça, en fait, hein, qui plombe, hein, c'est la répétition, finalement, de ces sucreries que l'on mange tout au long de l'année. Eh bien, le fait de diminuer comme ça le volume global à l'année des sucreries que l'on mange, des sucreries Haribo que l'on mange, eh bien, ça va avoir un impact positif vis-à-vis de notre poids de forme que l'on souhaite atteindre. Et c'est comme ça, effectivement, que l'on arrive à passer à l'action et surtout à tenir cette action à long terme. Et pourquoi, effectivement, notamment, je fais souvent un podcast comme ça des débuts d'année par rapport à comment tenir nos bonnes résolutions du début d'année. Pourquoi les résolutions du début d'année ne fonctionnent pas? Parce qu'en général, elles sont trop ambitieuses. Trop ambitieuses dans le sens où, effectivement, on rêve grand, donc ça, c'est parfait. Mais la mise en place n'est pas assez précise et elle n'est pas assez raisonnable dans le sens où on peut tenir cela à long terme. Il en est de même par rapport au sport. On décide début janvier de faire du sport et voilà, on passe de 0 heure de sport par semaine à 3 ou 4 heures de sport par semaine parce qu'on a pris un abonnement qui est relativement cher et on a envie de rentabiliser. Donc effectivement, les premières semaines, on va y aller. Mais après, on va trouver qu'il fait pas beau, on va trouver qu'on est fatigué, on va trouver qu'on a autre chose à faire, il faut terminer le ménage à la maison, ou le repassage, ou on a envie d'aller au cinéma, on a envie de rester chez soi, devant la cheminée, avec un bon bouquin, etc. On va trouver énormément d'excuses. Parce qu'effectivement, passer de 0 heure de sport à 3 ou 4 heures de sport, le cerveau, pour lui, c'est compliqué. Donc au début, on est content parce que c'est la courbe de la nouveauté, en fait. Hein. C'est un peu la courbe de la lune de miel, en disant c'est super, je change mes habitudes, etc. Mais finalement, sur le long terme, ça ne va pas tenir. Donc il vaut mieux, et en plus, comme en général, ce sont quand même des abonnements qui sont très chers, les abonnements en salle de sport, et c'est très bien, il y a plein de gens qui y vont très régulièrement, il n'y a pas de souci. C'est pas une pratique vis-à-vis des salles de sport. Mais je pense que si on faisait un espèce de ratio entre le nombre d'abonnements achetés à l'année et le nombre de personnes qui viennent, si les gens qui achetaient les abonnements remplissaient à 100% les salles de sport seraient sous-dimensionnées, hein, c'est évident, hein, tout le monde ne rentrerait pas, hein, ça c'est sûr. Il y aurait un embouteillage. Mais il compte effectivement sur le fait que, je sais pas, peut-être 20% ou 30% des personnes qui ont pris des abonnements viennent effectivement, mais rapidement les gens ne viennent plus. Et le deuxième effet qui se coule, hein, qui est pas très cool par rapport à ça, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'en plus on culpabilise par rapport à l'abonnement annuel que l'on a pu prendre. Et ce que je le conseille vraiment par rapport aux salles de sport, si c'est possible, c'est de ne pas se faire attraper par l'abonnement annuel, qui généralement, j'imagine, offre des mois gratuits ou ce genre de choses. Il vaut mieux effectivement commencer les 3-4 premiers mois avec un abonnement mensuel, voir comment on s'en sert, puis après passer à l'abonnement annuel. Moi, c'est ce que je fais par rapport à mes applications sur Internet. En tant qu'entrepreneur en marketing digital, on a énormément d'applications à notre disposition pour nous faire gagner du temps, etc. Et effectivement, les annonces sont toujours très alléchantes, mais ce que je ne fais plus, c'est ce que je n'ai jamais fait, je crois, c'est de prendre directement un abonnement annuel quand c'est une nouvelle application que je ne connais pas, que je n'ai pas utilisée, que je n'ai pas manipulée, parce que je ne sais pas si je vais m'en servir à long terme sur un an. Et prendre un abonnement d'un an, même si on vous offre 10% ou 12% dessus, ça fait quand même du bruit. Donc maintenant, je prends, c'est plus cher, le premier mois. Je vois comment ça se passe par rapport à l'usage, est-ce que j'en ai l'usage ou pas. Et après, si effectivement je vois que j'en ai l'usage et que ça me sert, eh bien à ce moment-là, je prends l'abonnement annuel. C'est ce qui s'est passé avec SurveyMonkey, sur lequel j'ai mon quiz sur le grignotage émotionnel. Je me suis rendu compte qu'effectivement, bah déjà, j'étais obligé pour avoir des nombres de points qui soient comptés de prendre un abonnement annuel plus haut. Mais je savais que j'allais m'en servir parce que je m'en sers aussi sur LinkedIn. Donc voilà, je savais que j'allais m'en servir à long terme et que c'était vraiment rentable. Mais il y a d'autres applications que j'avais prises en juillet, uniquement sur un mois, et je me suis rendu compte que finalement, je n'en avais pas l'usage, donc j'ai directement arrêté mon abonnement. Donc c'est vraiment important par rapport à cela. Donc, le troisième conseil pour effectivement passer de la pensée à l'action, c'est d'écrire. Donc on se dit, si je me suis promis à moi-même qu'effectivement j'allais diminuer mon paquet de Haribo et qu'au lieu de manger la totalité de mon sac de fraises, de Tagada ou de nounours, je sais pas s'ils font ça Haribo, des nounours guimauve ou chocolat au lait, j'adore j'adore les nounours chocolat au lait guimauve. Et on se dit, bah, c'est tellement simple comme mise en place et passage à l'action que j'ai pas besoin d'écrire, quoi. Enfin, je suis pas complètement idiote et je vais forcément me souvenir de ça. Eh bien non. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En fait, on se rend compte que si la petite mise en place de ce que l'on souhaite faire n'est pas écrite, le cerveau va oublier. Donc c'est basique. Ça, vraiment, on peut prendre n'importe quel bout de papier ou avoir des post-it un peu rigolos ou colorés que l'on aime, etc. Mais marquer cela sur un papier devant lequel vous êtes sûr de passer tous les jours. parce que le cerveau oublie. Et donc, le fait de l'avoir marqué sur un papier, ça va vous le rappeler. Déjà, la première chose, et ça va vous obliger à tenir cette promesse vis-à-vis de vous-même, en fait. On s'engage quand on écrit, plus que quand on pense. Et donc le fait de, c'est un peu le principe du contrat. Le contrat est signé. Je dis pas en cela que vous devez signer votre post-it, hein, mais quasiment. Parce qu'en fait, le fait de l'écrire comme ça sur un post-it, ça vous oblige à tenir cette promesse vis-à-vis de vous-même. Donc même si c'est une mise en place qui est simple, hein, donc ça peut être avant, quand j'étais anxieuse ou triste, ou je m'ennuie, je mange une plaquette de chocolat, dorénavant je passe d'une plaquette de chocolat entière à une demi-plaquette de chocolat, et je le note. Je le note quelque part, de manière à ce que chaque jour, je me rappelle cette promesse faite vis-à-vis de moi-même. Donc voilà, donc 1. En résumé du podcast, 1. Rêvez grand. 2. Faites une mise en action qui soit raisonnable, que vous sachiez pouvoir tenir toute votre vie. Hein, donc quelque chose que vous pouvez mettre en place, qui ne désocialise pas. Hein, ça, c'est super important. C'est-à-dire que vous ne décidez pas de ne plus voir vos amis le vendredi soir pour cela. Hein, vous gardez la même vie, la même socialisation, mais vous diminuez les quantités dans la limite du raisonnable, ce que votre cerveau peut effectivement accepter. Et 3, vous écrivez ce que vous avez décidé, une seule chose à la fois. Hein, c'est pas la peine de dire « et je vais diminuer le chocolat, et je vais diminuer les chips, et je vais diminuer les fraises d'Agada, et je vais diminuer les petits crocodiles en gelée, hein, je les connais, hein, toutes les friandises. » Non, une seule friandise, ça, c'est bien suffisant. Et une fois que vous avez tenu ça, vous vous attaquez une autre, mais surtout vous le notez. Sinon, le cerveau, très rapidement, souhaitera oublier. Si vous souhaitez m'écrire, vous n'hésitez pas. Donc, mon adresse mail sera mise dans les notes jointes du podcast. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.